Comme on veut encore à la fin du culte avoir un moment de prière, il est bon peut-être que on puisse. Je m'attendais à ce qu'on soit 4 ou 5. On est un peu. Peut-être important, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais demandé au Seigneur des confirmations par rapport au thème, déjà il y a quelques jours. Ce matin, Jocelyne a parlé du cœur. Ensuite, Marguerite a aussi parlé du cœur, et je vais vous parler du cœur. Mais, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans un roman, où on dit la solution de l'énigme dans la dernière page, je vais commencer par vous dire le but, et pourquoi le Seigneur veut qu'on parle peut-être du cœur. En fait, le Seigneur a besoin de votre cœur. Et personnellement, j'avais un autre but, et je me rends compte que ce n'est pas tout à fait le même que le Seigneur a. Je m'explique. Pour moi, c'est très important que chaque jour, on s'imprègne de sa parole et qu'on y cherche sa volonté. Plus que sa volonté, qu'on y cherche la réponse à toutes nos questions. Et le Seigneur m'a rappelé une chose, c'est que oui, d'accord. Mais lui, ce qu'il veut aussi, et si vous regardez dans la Bible, en Matthieu 6, 6, je crois que c'est en Matthieu 6, 6, oui, c'est ça. Je vais vous le prendre dans une version un peu amplifiée. C'est la version, vous savez, qui s'appelle Parole vivante. À propos de la prière, il est dit, au verset 6, non pas au verset 6, au verset 7, pardon, non au verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. » Mais le cœur vraiment de, je dirais, de l'étude qu'on pourrait faire ensemble ce matin, c'est un passage qui est dans Proverbes 4, au verset 20 à 23. Et je me suis armé de 6 ou 7 versions différentes pour vraiment être sûr que le sens ne soit pas faussé. Parce que vous savez, il y a des... On a tous eu une Bible qui nous a, une traduction qui nous a plu, et on est resté sur ces mots-là. Et je ne voulais pas qu'il y ait d'erreur par rapport à ce que je vais vous dire. On y parle du cœur. Voilà ce qu'il est dit, par exemple, dans la version Parole de vie. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Ce passage est un passage qui, pour moi, est un verset force. C'est-à-dire que, pour expliquer ce que veut dire un verset force, c'est-à-dire que c'est un verset qui me sert en permanence et que je médite, qui fait partie de ceux dont je sais que le Seigneur veut que je les médite pour ma vie. Mais je crois que c'est aussi des versets qui doivent être médités par vous aussi, peut-être d'une autre façon, par une mise en pratique. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Peut-être que la version, je ne sais pas si vous avez, si on pouvait afficher une version dans une, je ne sais pas, c'est la version en général seconde hein, qu'on a. Alors c'est... Proverbe 4, versets 20 à 23, inclus. Alors, je l'ai pris dans 6 ou 7 Bibles différentes. Et dans la Tob, il est dit la chose suivante. Donc, Proverbe 4, Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les recueillent et santé pour tout son être. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Donc c'est déjà différent, les limites de la vie. Donc avant qu'on le mette en pratique, je vous propose que je vous explique directement ce que ce verset dit. Je m'appuie sur un certain nombre de commentaires et j'ai regardé un peu partout ce qui se dit sur ce passage. Pour moi, le cœur du passage, c'est le verset 23 qui dit « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie ». Tout à l'heure, on a parlé du cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur dans la Bible ? Et plusieurs d'entre vous savent déjà que en général, on utilise une métaphore, puisque finalement, le cœur, en tant que muscle, c'est pas lui qui est notre cerveau. Il sert, d'accord, mais on l'a toujours mis dans le cœur, la notion de la volonté, la notion de l'attachement. Quand on dit à une femme, quand une femme dit à un homme « Je te donne mon cœur », ça veut dire qu'elle lui donne son amour le plus profond. Donc là, il y a une question aussi de profondeur. Le cœur, on sait que c'est quelque chose qui, physiquement, est important. Si on n'a pas de cœur, ben c'est simple, tout s'arrête aussi. Mais au fond du cœur, si on revient à l'image biblique, au fond du cœur, il y a quoi ? C'est comme une boîte dans laquelle il y a un programme, les pensées les plus profondes, celles qui nous font agir. Et vous avez tous, au fond de votre cœur, des pensées, justes ou pas justes, qui vous agitent. Et je vais être très pratique. Je vais faire un peu la suite de ce que nous a apporté Nadine il y a 2 semaines, puisqu'elle parlait de ce verset de Matthieu qui dit que la bouche parle de ce qu'on a dans notre cœur, d'accord ? Mais en fait, toute votre vie dépend de ça. Et ça ne m'étonne pas que Dieu nous dise « Je veux ton cœur ». Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut avoir l'amour qu'on aurait pour le plus grand amour de notre vie. Mais ça veut dire quoi, lui donner son cœur ? Ben, ça veut dire qu'on lui donne cet endroit secret où s'agite notre petit programme de départ, toutes nos pensées importantes, celles qui nous font agir, celles qui nous amènent à prendre une action, à faire une action. À propos de ces pensées, je vous rappelle que Jacques nous disait, l'épître de Jacques, nous parle beaucoup de cet enchaînement des pensées qui nous amène à des actes, justes ou pas justes. Donc ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que vous avez donné cette boîte au fond de nous, un peu, si je compare ça à un ordinateur, ça serait comme ce programme, vous savez qu'on ne peut pas la mémoire vive, mais l'autre mémoire, celle qui est inscrite dedans et qui fait que il va savoir dès le départ, l'ordinateur, quoi faire. Ce programme de base, vous pensez bien que pour Dieu c'est important. Parce que ça va déterminer ce que vous faites, l'amour que vous avez ou pas pour lui. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir toutes vos pensées qui sont en adéquation avec ce que Dieu veut pour votre vie. On lui posera tout à l'heure la question. Pour chacun d'entre vous, vous pourrez lui poser la question et lui demander s'il y a effectivement des pensées qui ne viennent pas de lui. Moi, je peux vous dire que c'est un travail de presque tous les jours où je me rends compte que j'ai fait quelque chose, où j'ai pensé quelque chose, et j'ai dit « ça ne vient pas de lui ». Alors là, j'ai tout de suite une deuxième proposition, c'est de vous dire, mais comment est-ce que je peux savoir ce qui vient de lui ou ce qui ne vient pas de lui ? Ben forcément, en lui posant la question. Et là, on en vient, et je boucle la boucle, à avoir des rendez-vous avec Dieu dans le lieu secret, pour qu'il puisse nous parler. Et pour y aller, il faut ne pas avoir peur d'y aller. Donc là, vous voyez, il y a déjà une première pensée qui serait de dire, c'est pas la peine que j'aille dans le lieu secret, il va me faire des reproches. Et puis, il y a de lire sa parole, c'est comme une lettre. Je sais qu'aujourd'hui, on s'envoie plus tellement de lettres d'amour parce qu'elles sont sur Internet, elles sont dans des mails, elles sont je ne sais pas comment. Il faut demander aux jeunes mariés, là, peut-être, comment vous vous envoyez les mots d'amour. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, c'était des lettres, en papier. Et j'utilisais même une plume pour que ça soit plus joli, avec des petits cœurs, avec des petites choses. Bon, ça dépend un peu du... Ou alors des mots très choisis, des choses prises dans des poèmes. Mais bon sang, vous avez un énorme livre de poèmes, là. Il y a 150 psaumes. Si tous les jours, vous ne vous imprégniez pas soit de messages que vous voulez, d'amour que vous voulez lui envoyer, soit de questionnements auxquels vous voulez des réponses, mais il faut lire la parole. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vous dire « lisez la parole » ? Pas du tout pour faire de vous des sortes de robots ou pour que vous nous saisissions de votre esprit. Au contraire, plus vous allez lire la parole, plus vous allez être libre. Parce que vous allez découvrir que les pensées de Dieu sont des pensées pleines de sagesse. Donc je reviens au texte de base. Pourquoi ce passage à ce moment-là ? Vous savez que le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. La sagesse y est même personnifiée, comme si elle était une personne. Et là, elle se fait pressante déjà, au chapitre 4, et il commence par dire, au verset 20, « Mon enfant, écoute mes paroles. » Puis tout de suite, dans la deuxième partie du verset, « Fais attention à mes conseils. » Et une troisième fois, « Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. » Il insiste trois fois. D'écouter, de lire, et de les mettre au fond de notre cœur. Mettre au fond de notre cœur, ce n'est pas juste pour les stocker et les mettre à l'abri, parce que si on les met dans notre cœur, elles vont devenir des déclencheurs d'action. Si vous voulez, le moteur de l'action, l'étincelle, pour un moteur à explosion, c'est ça qui déclenche le moteur, c'est d'avoir une étincelle qui allume le moteur à explosion. L'étincelle, c'est à partir de notre cœur. Et forcément, elle va remplacer une autre pensée. Cette parole de Dieu va remplacer une parole que nous avons prise, je ne sais pas où, dans notre éducation, dans notre expérience. Et notre expérience, elle a du poids. C'est très pratique. Dieu est très pratique avec nous. Il ne fait pas le tour 36 fois du problème. Là, il nous dit chaque fois que tous nos sens doivent être renouvelés par rapport à ça. Et ensuite, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23 ? Il donne donc ses paroles, qu'elles soient des paroles entendues dans le lieu secret ou lues dans la Bible, la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Dans certaines versions, en particulier dans une version anglaise, c'est même le mot médicament qui est utilisé. Et c'est vraiment la santé, suivant les versions, ça peut même être la santé de notre chair ou la santé de tout notre être. Alors je prends la Taube. La Taube nous dit... La Taube, c'est la traduction œcuménique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bon, elle est plus... Pardon ? Oui. Oui, parce que, désolé. Oui, ça fait un peu langage ésotérique, hein. Taube. Désolé, hein, vraiment. C'est... Et je me suis dit, il faut que j'utilise aucun mot que personne ne connaisse. J'ai fait des efforts de ce côté-là. Hein. En principe, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? au verset 22, car ils sont vie pour qui les recueille et santé pour tout ton être. Et quelles que soient les versions, en général, ça concerne donc le corps, l'âme et l'esprit. Donc ce n'est pas juste quelque chose, si vous voulez, qui concernerait qu'un point de notre vie. Là, on est dans une profonde intimité de votre être. C'est là où vous décidez ce que vous allez faire de façon, on va dire, presque automatique. Pourquoi est-ce que vous décidez à partir de ces pensées-là? Comment est-ce qu'elles peuvent arriver là? Alors là, je peux vous renvoyer au semeur, enfin la parabole du semeur. La parabole du semeur, pour ceux qui ne le savent plus, c'était dans Matthieu 13, 1, avec l'explication en 13, 18. Finalement, que dit cette parabole? Elle compare la parole de Dieu à une semence qui tombe dans différents terrains. Et finalement, la clé de cette parabole, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette semence? Pourquoi elle pousse là et elle ne pousse pas là? Parce que le terrain a été préparé. Et je dirais que si on prend un autre terme, parce qu'elle a été, elle s'est assimilée au terrain et que la personne qui représente le terrain, vous-même, vous l'avez, comment dire, vous l'avez pris, vous vous l'êtes approprié. Comment est-ce qu'on peut s'approprier quelque chose qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas lu avec attention et qu'on n'a pas écouté vraiment? C'est ce qui se passe avec les autres terrains. Donc, quel type de terrain êtes-vous? Ça pose cette question-là. Mais en tout cas, on sait le résultat. C'est-à-dire que si vous ne recevez pas cette parole dans votre cœur, dans l'endroit le plus profond de vous-même, là où vous prenez les décisions, et vous avez tous pris des décisions. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez déjà pris une décision, c'est de croire que Jésus est votre sauveur. Mais Jésus ne veut pas juste dire, bon, ça y est, maintenant, tu es sauvé. Il veut que toute votre vie soit transformée. Il veut que votre cœur, parce qu'il sait que c'est là que ça se passe, prenne toutes ses pensées à lui et vous transforme. Il ne peut pas vous transformer. Pour certains qui pleureraient peut-être dans leur cœur en disant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'avance pas, mais c'est peut-être tout simple. C'est parce qu'au fond de votre cœur, vous n'avez pas changé le programme de base. Vous avez peut-être gardé toutes les pensées de Dieu dans un stockage intermédiaire, dans une sorte de grenier. Le grenier, là, c'est le cerveau. Hein. C'est-à-dire que le cerveau, la connaissance, c'est d'ailleurs une des plaies de notre siècle. On reçoit tous les jours des centaines d'informations qu'on ne recevait pas jadis, au travers de tous les messages, au travers du numérique. Et que disent les professeurs? Il y a un professeur qui a fait un article et qui est directeur des recherches en neurosciences à l'Institut Pasteur. Il dit que le drame de notre siècle, c'est que, enfin de notre siècle, on va dire, disons, de notre période actuelle, notre génération, c'est qu'on reçoit énormément de connaissances, d'informations, mais on ne les digère pas parce qu'on n'a pas le temps de les digérer. Et donc, on ne fait pas le deuxième processus du cerveau, qui est de comprendre les choses, de les comparer avec nos valeurs, de les assimiler, de se les approprier, ou de dire « non, j'en veux pas ». Donc, on se retrouve la plupart du temps, quand on regarde les médias, même les médias se font avoir. Elles ne font même plus leur rôle de filtre, de transmetteur, d'explication. Et c'est comme ça qu'on voit des erreurs qui se passent presque tous les jours, ou des injustices, des accusations, parce que l'information, elle est prise tout de suite, elle n'est même pas analysée correctement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et que nous rappelle ce verset. C'est que si vous ne prenez pas ce que Dieu vous a dit dans le lieu secret, ou ce qu'il vous a dit au travers de sa parole lue, tous les jours, quelle que soit la façon dont on la lit, parce que le Saint-Esprit, il est assez puissant pour nous amener chaque fois vers une parole qui nous touche, qui va juste aller là où il fallait qu'elle aille. Donc, sinon, ben c'est, vous aurez des problèmes avec votre santé. Ce n'est pas une menace que je dis là. Je dis juste que notre santé, et c'est su de plus en plus par les scientifiques, que notre santé mentale, mais aussi notre santé physique, dépend de ce que nous pensons, de ce que nous assimilons. Donc vous voyez la sagesse. Là, c'est la sagesse qui poursuit le chrétien. Quand on lit Proverbes, ce n'est pas des choses juste un peu simplistes. D'ailleurs, le titre a été choisi en français « Proverbe », alors qu'il ne couvre pas le vrai terme en hébreu, qui est plutôt de dire « ce sont des vérités ». En hébreu, si vous voulez, le sens du mot « proverbe », là, tel qu'on le titre du livre en réalité, c'est des choses qui ne veulent pas dire ce qu'elles disent littéralement. C'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire que si je vous parle du cœur, par exemple, il ne faut pas comprendre le cœur physique. Il faut comprendre autre chose, de plus, qui est quand même dans notre culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vous posez pas des tas de questions, disons, il nous parle du cœur, mais il devrait nous parler de, je sais pas, de l'infarctus, ou non, c'est pas ça. C'est le siège de notre volonté, c'est là où il y a les pensées indispensables pour notre santé morale, pour notre santé physique, pour toute la santé de notre âme. Parce que nos pensées déterminent ce que nous allons faire, tôt ou tard. Je poursuis donc dans le verset 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Et dans l'autre version, il est dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Alors j'ai cherché ce que voulait dire les limites de la vie, parce que franchement, c'est la première fois que je voyais ce passage, c'est écrit dans deux versions différentes, les limites de la vie. La plupart du temps, c'est indiqué de façon différente. C'est les sources de la vie, ou tout simplement la vie. Et en fait, j'ai trouvé ça comme réponse. Que les limites, ces limites étaient en fait des limites un peu comme la terre promise. C'est-à-dire, c'est un lieu géographique, c'est un terme qui pourrait s'appliquer à un lieu géographique, un peu comme si, en fait, on ne recevait pas notre héritage dans cette vie. Je ne parle pas de l'héritage dans l'éternité, mais en fait, comme si on ne pouvait pas vivre comme on le souhaite, vivre en abondance. Parce qu'on n'est pas, dans les limites, on ne vit pas là où il faudrait vivre. Et vous savez bien que le royaume de Dieu, il est là et puis il n'est pas là pour tout le monde. Il est là pour ceux qui le voient, pour ceux qui veulent vivre dedans. On a déjà les prémices du royaume de Dieu. Mais en fait, c'est comme si on disait, finalement, on ne peut pas vivre dans les limites de ce royaume dès maintenant. C'est curieux. Donc, le Seigneur nous dit, garde ton cœur. Et il a même dit plus que ça, garde-le. Plus que tout ce que tu gardes. Donc, il ne nous demande pas de garder notre cœur physique, il nous demande de garder cet endroit où nous avons ces pensées qui déterminent, finalement, c'est les pensées qu'on a choisi de garder et qui servent pour notre vie. Pas les pensées qui sont, disons, des détails sur un certain nombre de, je sais pas, le fonctionnement de tel ou tel appareil, qu'on connaisse par cœur le mode d'emploi et qu'on sache sans aller consulter le mode d'emploi, si vous voulez, ce n'est pas ça qui est important. Ça ne nous fait pas décider d'une action. Alors, quel type de pensées peuvent être conservées et cohabiter, en quelque sorte, avec des pensées justes, avec des pensées qui ont été mises dans notre cœur? Et je me suis un peu penché sur ce genre de pensée. Par exemple, il y a la pensée de l'éternité. Alors, je commence peut-être par la fin, c'est-à-dire par les pensées les plus... Est-ce que vous avez la pensée de l'éternité ? Probablement. C'est une des premières que le Seigneur met dans votre cœur, finalement. Mais il y a la pensée beaucoup plus fréquente, et je le sais au travers du sozo, bon, on rencontre souvent cette difficulté, c'est une pensée sur notre incapacité. On pense qu'on est incapable de... Ou un manque de confiance en soi ou dans les autres. Ou le réflexe de râler, qu'on chérit. En plus, dans notre pays, ça fait partie presque de la culture, quoi. Si on râle pas, c'est qu'on n'est pas français. Une insatisfaction permanente. On peut même la chérir, cette pensée, en disant ben, « finalement, c'est bien comme ça, je suis exigeant ». Il peut y avoir des soucis qui prédominent, qui sont aussi comme une sorte d'habitude. Je me fais du souci systématiquement, même si après je l'abandonne. J'ai besoin d'abord d'accomplir ce programme, j'ai des soucis, ça me procure du souci. Et puis, il y a l'accusation, il y a la rancune. Oh, ça peut être des très vieilles rancunes, hein, des rancunes qui datent du siècle dernier. Pas pour tous, hein, pour ceux qui sont nés avant. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on apprend avec l'âge, c'est qu'il y a un certain nombre de pensées, elles sont presque déjà à mettre au musée, parce qu'elles sont très vieilles, très usées, mais elles sont toujours là. Je me rappelle d'un voisin, c'est vraiment une anecdote, un témoignage, un voisin que j'avais quand j'habitais en ville. C'était un monsieur qui avait, je vous parle d'il y a 20 ans, ce monsieur, il avait plus de 80. Et on était tombés, on avait une amitié provoquée par le fait que c'était un photo. Il aimait la photo et moi aussi. Et donc, il était amateur, bien sûr, mais un amateur éclairé. Il avait un appareil très très cher qui était vraiment très bon et on échangeait sur ce mode-là, sur la photo. Et il est venu à un moment donné à me faire des confidences. Parce que je lui disais, mais bon. Il avait tendance de temps en temps à être triste. Et je l'ai un peu interrogé sur son passé. Il m'a dit, voilà, il ne s'est jamais pardonné à lui d'avoir été, au moment de la dernière guerre mondiale, d'avoir fui avec des amis vers la France, au moment où les Allemands devaient donc rentrer en Alsace ou... Et au moment où on passait près de la frontière suisse, parce que c'était des amis qui voulaient l'emmener pour aller dans le maquis, à l'intérieur du pays. Et lui, il a fui en Suisse. Il est resté, disons, à l'abri de tout, jusqu'à la fin de la guerre. Et il s'en voulait parce qu'il trouvait qu'il avait été lâche, quoi. Donc voilà cet homme qui était tout seul, finalement, avec cette pensée, parce que personne ne lui a jamais rien reproché, en plus, et qui... Ça le faisait vraiment, ça le torturait, alors que la dernière guerre était terminée depuis 40 ans. Donc c'est quand même curieux. Et cet homme était vraiment poursuivi par une pensée très vieille qui était où ? Cette pensée était dans son cœur, nulle part ailleurs. Elle n'est pas forcément juste dans la mémoire. Vous savez la différence entre une pensée, par exemple, mettons que vous avez eu un accident grave et que ou quelque chose... Une grosse difficulté, la plupart du temps, on apprend aussi à oublier ou pas à oublier, mais le souvenir ne fait plus mal. Le souvenir ne fait plus mal. Or lui, c'est un souvenir qui faisait mal, c'est-à-dire qu'il était placé par rapport à ses actions. Ce qu'il pensait sur lui-même était conditionné par ça. Vous ne croyez pas que le Seigneur voudrait que toutes nos vieilles pensées, tout ce qui a généré, si vous voulez, cette pensée sur nous-mêmes, voire sur les autres, qu'elle soit abolie. Pourquoi dans la parole, on donne tellement d'importance au pardon ? Si vous ne pardonnez pas, si vous ne décidez pas de pardonner, c'est que vous avez laissé dans votre cœur quelque chose, un marqueur qui va vous aider à décider à faire quelque chose ou à ne pas le faire. La plupart du temps, on ne fait pas. Quand on a une rancune, il y a des choses qu'on ne fait plus. Donc vous voyez l'importance de ce passage. Pour moi, c'est devenu un verset force parce que je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur qui ne va pas ? Et j'en viens à la dernière phase, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Je ne vais pas me lamenter et dire, voilà, il y a dedans encore une pensée de plus, tu n'y arriveras pas. Ça serait vraiment le comble. Alors déjà, il y a à suivre le conseil que nous donne la sagesse tout au début, de dire, écoutez mes conseils, lisez la parole, venez prier dans le lieu secret. Et accepter de sortir cette pensée, de l'échanger contre une pensée à moi. Et ça explique pourquoi Dieu veut notre cœur. Il ne veut pas forcément notre cerveau, nos compétences. Bien sûr qu'il va les utiliser, mais ce n'est pas ça en premier qu'il veut. Il veut notre cœur. Qui que nous soyons, il veut notre cœur. Et je vais vous donner juste, par exemple, comment on peut accorder notre cœur par rapport à l'absence de gratitude, le réflexe de râler, l'insatisfaction permanente. On peut le remplacer par chanter des louanges, n'est-ce pas ? Les louangeurs, eux, ils font que ça, mais ils nous entraînent aussi dans leurs louanges. Ou, pour le manque de confiance, se souvenir de la fidélité de Dieu. Moi, j'avais beaucoup ce souci dans les années après ma conversion. J'avais vraiment le manque de confiance en Dieu. Et je l'ai remplacé par... j'ai reçu un passage à un moment donné dans un livre. C'était un missionnaire qui parlait de sa confiance en Dieu et qu'elle s'appuyait sur un verset qui est dans Marc 11, 22. Bon, c'était pas un français, donc sa traduction était différente. Ce passage, c'était « Croyez en Dieu ». Alors, on va me dire « Croyez en Dieu », c'est tellement dit souvent, ça veut dire quoi ? Donc, sa traduction, c'était « Saisissez la fidélité de Dieu ». Et de saisir la fidélité de Dieu, c'est complètement différent. Et donc, je l'ai vraiment mis dans mon cœur à la place du manque de confiance. Et chaque fois que maintenant je pense à ce verset, c'est-à-dire ce verset est devenu ma pensée. Je saisis la fidélité de Dieu. Je dis, Dieu est fidèle. Et s'il ne reste qu'une chose, un peu comme dans un tramway qui serait dans le brouillard, vous voyez, avec juste cette barre en haut, je ne vois que la barre et mon point. Tout le reste est dans le brouillard. Ça va tenir. C'est ça la fidélité de Dieu. On a posé la question à Derek Prince. Derek Prince qui a eu un ministère vraiment assez puissant au niveau international. Et on lui a posé la question, quelle est la vérité la plus importante qu'il a apprise dans sa vie ? Il a répondu que Dieu est fidèle, qu'il tient parole, qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et il dit, je n'insisterai jamais assez là-dessus, c'est la plus grande vérité de ma vie, Dieu est fidèle. Et pourquoi je vous parle de Derek Prince ? Parce que j'aurais pu vous parler d'autres. C'est que Derek Prince, au moment de sa conversion, il était malade. C'était un homme qui avait déjà des diplômes de Cambridge, qui était un philosophe de formation. Et il s'est retrouvé, pendant la Seconde Guerre mondiale, coincé au Soudan et en Égypte. Hospitalisé, il avait une maladie qui était certainement due à, comment dire, à des virus locaux. En tout cas, il avait une sorte pas une dépression, mais il était, disons, affaibli. Et il s'est dit, ben, il avait avec lui la Bible, parce qu'il avait comme objectif de l'avoir d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire lire la Bible pour ne pas qu'on lui dise, ben, tu n'as jamais lu, donc pour un philosophe, c'est important. Peut-être faut poser la question à quelqu'un qui a fait de la philosophie. C'est important de lire la Bible quand on est philosophe. Il faudrait demander à tous nos philosophes français, là, peut-être qu'ils n'est pas sûr. Et donc il a lu ça, et puis j'ai lu dans un témoignage sur sa conversion qu'il a rencontré Jésus. Mais je veux dire, ce qui l'a aussi énormément touché, c'est le mot médicament dans ce passage du verset 23, ou du verset 22, au verset 22, puisqu'il est dit c'est la santé, et où il est dit c'est un médicament pour ton corps, quoi, ou pour toi, quoi. Et effectivement, il a pu l'expérimenter. Donc vous voyez que. La seule chose que j'aurais envie de vous dire ce matin, et la seule chose pour laquelle je crois que le Seigneur voulait qu'on partage sur le cœur, c'est que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le cœur dans notre vie, et que lui veut notre cœur et pas autre chose. Un peu comme votre bien-aimé vous dirait « je veux ton cœur, si j'ai pas ton cœur, j'ai rien ». Avec l'amitié, on a juste l'intellect et... Ça va un peu plus loin, hein, peut-être, oui, ça va un peu plus loin. On a aussi notre cœur, mais pas en entier. Et surtout, on n'a pas l'intimité, tu es d'accord, Mathé? Parce que finalement, ce que Dieu veut, c'est ce qu'on a aussi sous une certaine forme dans nos vies personnelles. Il veut de l'intimité. Et cette intimité, il ne peut pas l'avoir avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne lui a pas donné tout son cœur. Et donc, cette boîte où nous avons ces pensées, il veut... les changer pour notre bien. Il veut changer ses pensées pour notre bien. Alors pour terminer, moi je vous proposerai de faire une chose qu'on fait souvent avec Nadine, mais que j'aime bien faire aussi, c'est de vous poser la question, de prier, et qu'on lui demande quelque chose. Mais je vous propose qu'on lui demande est-ce que nous avons une pensée qui n'est pas une pensée dans notre cœur, je dis bien dans notre cœur, que lui voudrait changer. Et laquelle ? Qu'il vous la révèle. Ça ne sera pas fait en public, hein, vous n'aurez pas besoin de la dire. Vous voulez bien ? Et ensuite, on lui posera une deuxième question. Seigneur, montre-moi quelle pensée dans mon cœur ne vient pas de toi, est peut-être un mensonge, et si elle n'est pas un mensonge, elle n'est pas à sa place dans mon cœur, parce que c'est une pensée qui n'est pas de toi. Dis-le-moi maintenant, Seigneur. Et alors qu'il vous montre quelle est cette pensée, on peut lui demander, Seigneur, quelle est la vérité par rapport à ce mensonge, et surtout, quelle pensée tu voudrais que je mette à la place ? Voilà. Et je vous encourage à chercher tous les jours, où il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, un quart d'heure, 20 minutes suffisent, dans le lieu secret, de prier et de lire la parole. Ce n'est pas indispensable, c'est vital. C'est vital. Et comme un bon pianiste disait, un virtuose disait, si pendant 2 jours, je n'ai pas fait de gamme, je ne me suis pas entraîné, il y a juste les très grands spécialistes qui vont l'entendre. Mais si pendant 1 semaine, je ne fais pas mes gammes, tout le monde va l'entendre. Donc si on ne lit pas sa Bible tous les jours, ben c'est comme si tout à coup on laisse des portes ouvertes et ses pensées ne sont pas renouvelées. Une vie, c'est à peu près combien de jours d'après vous, en moyenne? ?20 000 jours? 30 000? Allez, 36 500 jours, oui, pour les chanceux. Comptez vos jours, mais en tout cas, je vous dis, le Seigneur,